Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au BTP, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Pour cette deuxième saison, nous partons dans les pas d'un avocat ou d'une avocate, explorer les terrains juridiques qu'arpenteront les acteurs de la construction dans les prochains mois. Du décret tertiaire à l'urbanisme transitoire, en passant par l'artificialisation des sols, le verdissement de la commande publique ou encore la protection des lanceurs d'alerte, il nous livre les clés pour mieux comprendre les enjeux, adopter les bonnes pratiques et anticiper les échéances. Une série d'interviews au micro de Sophie Dozon.
Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui nous avons deux chefs de chantier juridique, Sylvie Ledamani et Édouard Lemoyle. Sylvie est avocate associée en droit pénal des affaires, et Édouard est également associé en charge du pôle digital. Et nous allons ensemble parler de conformité et de lanceurs d'alerte, un sujet peu évoqué dans le BTP et pourtant ô combien important. Bonjour Sylvie.
Bonjour Sophie.
Bonjour Édouard.
Bonjour Sophie.
Alors lorsqu'on parle de lanceurs d'alerte, on pense spontanément à de très grosses entreprises. Chacun a en tête des affaires très médiatisées. Pourtant aujourd'hui, même les petites entreprises doivent mettre en place des dispositifs d'alerte. Racontez-nous ça Sylvie.
En effet, en France, depuis le 1er janvier 2018, ce qui ne se sait pas vraiment, avec la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, les entreprises ayant atteint le seuil de 50 salariés doivent mettre en place un dispositif d'alerte interne et ça concerne les personnes morales de droit privé, de droit public. Simplement, il y a une évolution puisque la France a transposé une directive européenne au travers d'une loi du 21 mars 2022 avec son décret d'application du 3 octobre 2022 renforçant la protection des droits des lanceurs d'alerte.
Alors, dans le BTP comme ailleurs, les sujets à risque ne manquent pas. Sylvie, vous avez par exemple été confrontée au cas d'un directeur des achats qui était accusé de privilégier un gros prestataire. Ça soulevait à la fois un soupçon de corruption et un risque de dépendance économique du partenaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama des risques principaux qu'on peut rencontrer dans le BTP?
Alors, je commencerai par l'indice de corruption dans le secteur BTP qui est remis à jour chaque année par une ONG qui est Transparency International et fait apparaître que le secteur BTP est très exposé, de même que celui de l'armement. Donc, en effet, toutes les entreprises dans ce secteur sont fortement exposées à différents niveaux, au niveau des achats, des prestations de services, des activités commerciales dans le cas des appels d'offres, tant en France qu'à l'étranger. Je vous ai donné, en effet, cet exemple du directeur des achats qui nous a occupés l'été dernier, puisqu'on a dû le mettre à pied. Ce directeur des achats avait privilégié depuis une dizaine d'années un prestataire en le faisant travailler plus qu'il n'aurait dû. Donc, on a eu deux problèmes, corruption au profit du directeur des achats et une entreprise dépendante économiquement. Donc, enquête interne, mise à pied, et puis il y a eu beaucoup de progrès qui ont été fournis. On a même des clients travaillant beaucoup sur le continent africain, dans ce secteur, sont allés jusqu'à déclencher une démarche ISO 37001, qui est une norme sur le sujet de la lutte contre la corruption, pour se démarquer de leurs concurrents. Et donc, c'était soit se retirer du continent africain, soit d'y rester, mais en mettant un dispositif de lutte contre la corruption. Ils en ont fait un atout concurrentiel, ce qui était très intelligent.
Ça touche aussi au droit du travail, au harcèlement, aux problématiques de concurrence, aux problématiques de respect des droits humains.
Alors, vous évoquez le devoir de vigilance, oui, qui est une autre loi de 2017 qui impose aux grandes entreprises ayant atteint le seuil de 5 000 collaborateurs, salariés, en France, ou 10 000 au niveau monde, à mettre en place ce programme vigilance. Elles doivent être vigilantes sur toute la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, jusqu'à ses sous-traitants, y compris dans les pays les plus éloignés. Cette loi française de 2017 fait suite à ce dramatique accident au Bangladesh, dans le secteur du textile, et qui a entraîné la mort de centaines de personnes, puisqu'un immeuble s'est écroulé, un immeuble vétuste, et avec des grandes entreprises, notamment françaises, qui faisaient sous-traiter un certain nombre de produits. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mentionner ce projet de directive européenne, qui effraie beaucoup d'entreprises, puisque si le texte est voté tel qu'il est rédigé aujourd'hui, ce seront des entreprises ayant atteint le seuil de 250 salariés, non pas 5 000, qui devront mettre en place ce programme vigilance programme qui impose la réalisation d'une cartographie des risques par rapport justement au respect des droits humains, de la santé, la sécurité, enfin un grand nombre de sujets.
Et sur tous ces sujets, une entreprise qui n'a pas pris les précautions suffisantes, qui n'est pas dans les clous, quel risque elle encourt? Ça va du bad buzz au pénal?
Oui, c'est sûr. Les entreprises sont très soucieuses du risque d'atteinte à la réputation, boycott de produits. Donc, ça a un impact direct sur leur chiffre d'affaires, mais aussi quand elles sont cotées, un impact sur le cours de bourse. Donc, ça, c'est très fort. Quand bien même, on n'aurait pas de sanctions pénales. Parfois, la sanction, justement, de la part du consommateur engendre beaucoup plus de dégâts. Le fait de ne pas avoir mis en place un dispositif d'alerte n'est pas sanctionné pénalement aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas ce dispositif d'alerte, eh bien, les alertes ne sont pas canalisées, donc vous maîtrisez moins bien, en fait, les alertes.
Alors, justement, ces alertes, avec la réglementation récente qu'on a évoquée tout à l'heure, comment ça marche? Qu'est-ce qui a changé du point de vue du lanceur d'alerte?
Donc, c'est un renforcement des droits qui englobe désormais les facilitateurs et toutes les personnes ayant aidé à lancer l'alerte. Donc, elles sont protégées. Elles ne l'étaient pas auparavant, y compris des personnes physiques, des personnes morales, y compris des ONG. Et il est important de préciser également que l'alerte peut être lancée par des actionnaires, par des dirigeants, par des sous-traitants, par des co-contractants. Et là, je parle de la loi Sapin 2, pas du devoir de vigilance. Donc, ça signifie que toutes les entreprises ayant atteint le seuil de 50 salariés peuvent recueillir bien plus d'alertes et que leur dispositif, qui était purement interne, devient externe. Il faut que vous ayez un dispositif clair et accessible, notamment sur le site Internet.
Et un dispositif qui permette de traiter rapidement et efficacement les alertes. Quelles sont les règles essentielles que les entreprises concernées doivent connaître?
Donc, elles sont obligées de revoir depuis le décret d'application du 3 octobre 2022 leur dispositif, d'apporter des précisions notamment sur les délais de traitement. Quand on reçoit une alerte, on doit y répondre dans les 7 jours et on doit la traiter en 3 mois. On peut, pour des raisons parfois de complexité, avoir des enquêtes internes qui sont bien supérieures à 3 mois. Mais en ces cas-là, on va l'expliquer, on va revenir vers le lanceur d'alerte. Voilà, faut toujours être en relation avec le lanceur d'alerte. Quand le lanceur d'alerte est anonyme, c'est plus compliqué. Et le dispositif de l'entreprise peut permettre aussi les alertes orales et un téléphone qui est utilisé. Donc, le sujet des enregistrements, le sujet de à qui s'adresser si on veut que ce soit oral, pas écrit. Donc, il y a tous ces aspects très techniques, pratiques qui sont à prévoir dans la procédure.
Alors, c'est déjà pas simple, mais alors, quand on appartient à un groupe de société, c'est encore moins simple. Peut-on mutualiser le recueil et le traitement des alertes?
Alors, on travaille en ce moment pour un grand groupe du BTP sur ce sujet, puisqu'il remet à plat son dispositif, puisqu'ils ont différentes alertes qui remontent vers certaines filiales. Et donc, au niveau de pôle, ils ont un dispositif qui est groupe et des dispositifs qui sont au niveau des pôles. Donc, il faut que tout s'articule correctement. Simplement, il faut que on fasse une distinction entre ceux qui vont recevoir les alertes et ceux qui vont les traiter. On peut imaginer avoir un dispositif groupe pour recueillir, mais le traitement devra passer par les filiales concernées quand elles ont atteint un certain seuil, notamment 250 salariés.
Alors, on peut imaginer que les données à traiter ne sont pas des données comme les autres. Vous avez parlé d'anonymat, Sylvie. C'est des données particulièrement sensibles. Édouard, comment on les appréhende?
On accuse ou on dénonce des personnes. Et il faut savoir que la loi base sur les lanceurs d'alerte définit une obligation de confidentialité renforcée, sanctionnée pénalement, 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, en cas de divulgation de l'identité du lanceur d'alerte ou en cas de mesures de sécurité insuffisantes. Et là, on rejoint un peu les obligations imposées par le RGPD, la réglementation sur les protections des données personnelles, que tout dispositif d'alerte doit respecter. Il s'agit essentiellement de mettre en place des mesures techniques et informatique de sécurité du canal de transmission de l'alerte. Par exemple, une ligne téléphonique ou un email simple n'offre pas cette garantie au regard du RGPD. On sait que les employeurs peuvent mettre sur écoute leurs salariés pour différentes raisons, dans les call centers, par exemple. Et donc, c'est pour ça que la CNIL impose la réalisation d'une étude d'impact qui décrit les différentes mesures juridiques et techniques et organisationnelles mises en place. Et ce document doit être formalisé et communiqué à la CNIL en cas de demande, avant l'activation du dispositif d'alerte. La CNIL a adopté une décision dans ce sens, qui est antérieure aux récentes lois sur les lanceurs d'alerte. Donc, le document de la CNIL sera mis à jour prochainement. Et il y a un point sur lequel il faut faire attention. Lorsqu'on achète des outils informatiques pour gérer les alertes, il faut bien vérifier la localisation du fournisseur. Comme vous savez, la majorité des logiciels sur le marché sont américains. Or, une donnée d'un dispositif d'alerte, c'est une donnée à caractère pénal, et elle ne peut pas quitter le territoire européen. Donc, les dispositifs d'alerte qui prévoient des transferts ou lignes téléphoniques aux États-Unis sont en violation avec le RGPD. Et donc, il faut éviter de dépenser de l'argent dans l'achat d'outils informatiques non conformes au droit européen.
Le droit dans ses bottes, par le Moniteur et Adaltis.
Et pour finir sur une note positive, est-ce qu'on peut se saisir des contraintes de cette réglementation pour finalement en faire une force, une façon de se distinguer de la concurrence?
Oui, tout à fait. Par exemple, dans le secteur du bâtiment, les entreprises répondent beaucoup à des appels d'offres. Et les appels d'offres, maintenant, une des exigences, il faut produire de la documentation sur la conformité, RGPD, mais également, bien sûr, anticorruption. Donc les acheteurs publics regardent cet aspect des choses avant de sélectionner le candidat. Deuxième point, c'est si vous remportez un marché alors que vous n'êtes pas en conformité, admettons, ça peut être un marché privé, hein, et l'acheteur n'a pas demandé de garantie particulière, vos concurrents évincés pourront vous attaquer pour concurrence déloyale parce que eux, ils sont conformes, et vous, vous ne l'êtes pas, et ils peuvent demander des indemnités qui peuvent correspondre au préjudice subi, donc au chiffre d'affaires du marché, pour concurrence déloyale.
Il y a une décision récemment là-dessus.
Tout à fait, une décision sur l'aspect RGPD, pas encore sur l'enceinte d'alerte, dans lequel le juge prévoit que le fait de ne pas être conforme à une obligation réglementaire constitue un acte de concurrence déloyale. Ça a été jugé également en Allemagne, en Belgique, donc c'est une jurisprudence européenne.
Merci Edouard, merci Sylvie et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. Et retrouvez dans la description de l'épisode un lien vers une fiche pratique complète élaborée par Sylvie et Edouard. À bientôt.